Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'agité du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 octobre et c'est donc où on va parler, comme toujours, de l'actualité en Mayenne de manière différente. Aujourd'hui, on va parler aussi de ces dessertes TGV Laval-Paris. Peut-être d'ailleurs, est-ce un train que vous prenez tous les jours? Les dessertes qui sont maintenues en 2022 et 2023, mais pas forcément ensuite. On en parle justement et des incidences que cette fin de convention avec la SNCF a. On va parler aussi des jardins de Beauregard à Laval, avec une association qui se mobilise justement pour leur sauvegarde, alors que pourraient être construits des bâtiments. En tout cas, c'est un projet qui était en cours. Eux se mobilisent pour la sauvegarde de leur jardin. Reportage sur place avec plusieurs membres de l'association. Et puis en fin d'émission, retour de la chronique de Soizic, un autre écho de l'écho. Soizic qui va nous parler aujourd'hui de Greta Thunberg et qui lui conseille de prendre un cours de sociologie. Oui, oui, vous entendrez ça, ce sera en fin d'émission. D'abord, on fait un point sur l'actualité avec, vous le savez, cette bonne nouvelle. La joggeuse de 17 ans portée disparue en Mayenne a été retrouvée vivante hier soir, soulagement pour sa famille. L'adolescente s'est réfugiée dans un kebab de Sablé-sur-Sarthe où elle aurait dit avoir échappé à plusieurs ravisseurs. Elle a été retrouvée égratignée et en état de choc et a été médicalement prise en charge à Angers. La jeune fille de 17 ans était partie courir lundi vers 16h dans la forêt de Bellebranche à Saint-Brice. Ses parents s'étaient inquiétés de ne pas la voir revenir et en reprenant son parcours habituel de course à pied, avait retrouvé ses affaires, notamment sa montre et ses écouteurs tachés de sang. De nombreux gendarmes ont été mobilisés sur place dès lundi soir et ils sont toujours une centaine sur la commune de Saint-Brice et à Sablé-sur-Sarthe. L'enquête se poursuit. Le pass sanitaire conditionné à une troisième dose pour les plus de 65 ans, c'est l'une des principales mesures annoncées hier par le président de la République. À partir du 15 décembre, si les personnes âgées de plus de 65 ans veulent conserver leur pass sanitaire, elles devront recevoir une troisième dose de vaccin contre la Covid. Une campagne de rappel sera lancée en décembre pour les 50-64 ans et le masque sera à nouveau obligatoire pour tous les écoliers en France dès lundi prochain. Et même si les écoliers mayennais devront remettre le masque, le département reste en dessous du seuil d'alerte. Le taux d'incidence en Mayenne s'établit à 42,6 pour 100 000 habitants, selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé. Plusieurs centaines de lits d'hôpitaux perdus en 20 ans, selon les statistiques de la DRES, la Direction de la Recherche, des Études et de l'Évaluation du ministère de la Santé. Le département de la Mayenne a perdu 806 lits d'hospitalisation entre 2000 et 2020, soit une baisse de 37%. Au total, en France, c'est 80 000 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés en 20 ans. Retour en Mayenne où une femme a été légèrement blessée dans un accident à Villiers-Charlemagne. Deux voitures se sont percutées hier soir vers 18h sur la Nationale 162. Une femme âgée de 24 ans a été légèrement blessée et transportée au centre hospitalier de Château-Gontier. Je le disais au tout début de cette émission, des dessertes LGV maintenues jusqu'en 2023 à Laval. Et après, ce sont les inquiétudes des élus mayennais après la réunion hier avec la SNCF. La société a confirmé qu'elle ne reconduirait pas la convention de desserte de la LGV Paris-Laval-Rennes qui s'achève le 30 janvier 2022. Seule certitude, les 8 allers-retours entre Laval et Paris seront maintenus en 2022 et 2023, avec même deux fois plus de trains directs. Mais cet engagement de 2 ans ne suffit pas pour le président du département, Olivier Richefou.
La SNCF nous avait proposé une convention qui se poursuivait pour 1 an, ce qui n'était pas très sérieux, et elle a changé d'avis. Elle propose finalement qu'il n'y ait plus de convention. Et ça, ça ne nous satisfait pas du tout. Parce que beaucoup de politiques que nous mettons en œuvre en matière d'habitat, d'attractivité, de tourisme reposent sur la durée. Quand une entreprise décide de se délocaliser en Mayenne parce qu'elle sait qu'elle a une desserte ferroviaire de qualité, elle ne va pas se délocaliser pour 1 an ou 2, elle se délocalise dans la durée. Et donc on considère qu'il faudrait au moins que cette visibilité existe sur 5 ans. Et on attend de la SNCF qu'elle puisse nous donner plus d'informations, notamment sur ces taux de remplissage, qui justifieraient à un moment donné de baisser la garde. On a même pour ambition, pour tout vous dire, d'augmenter le nombre de dessertes à Laval. Mais pour ça, il faut qu'on ait accès aux chiffres. On sait que les trains hors Covid sont globalement remplis à 90%, mais nous n'avons plus le filet de sécurité que nous avions grâce à la convention. La meilleure preuve en est, c'est que la ville du Mans va perdre 3 arrêts en 2022. Parce qu'elle nous dit que certains trains ne sont pas remplis. Et pour accélérer la desserte de Nantes et de Rennes, eh bien, il vaut mieux ne pas s'arrêter au Mans. Et ce qui se produit au Mans en la circonstance pourrait un jour se produire à Laval.
C'est une crainte que partage en partie Françoise Rey. Elle est membre du collectif des usagers du TGV.
Depuis 2007 maintenant, j'utilise le TGV de manière quotidienne pour aller travailler à Paris et rentrer à la maison le soir. Donc c'est du concret. Ça me rassure dans un sens, oui, tout à fait, parce que bon, ça permet de devoir venir, en espérant que cette annonce sera vraiment confirmée, on va dire. Mais c'est reculer pour mieux sauter, parce que quels que soient les abonnés qui ont tous bon, des contraintes un petit peu différentes en fonction de leur profession, de l'endroit où ils travaillent en région parisienne, on a chacun besoin de train pour pouvoir travailler et que, de facto, en 2024, on ne sait absolument pas ce qui restera, tant en nombre de trains qui desserviront Laval qu'en horaire de trains qui desserviront Laval.
Les usagers déjà abonnés à la SNCF se demandent aussi s'il va falloir multiplier ces abonnements avec l'ouverture de la concurrence prévue d'ici quelques années. Le non-renouvellement de cette convention pose aussi un problème éthique et environnemental pour Xavier de la Bretèche, le président de Made in Mayenne.
On ne peut pas réclamer des moyens de transport collectifs utiles au territoire et en même temps décider unilatéralement que le train, qui est le mode de transport le plus économique d'un point de vue écologique, environnemental, soit, comme ça, soumis à caution et remis en cause tous les deux ou trois ans. On a quand même un certain nombre ici de sièges sociaux qui ont une vocation à rayonner sur le territoire national, en Europe et dans le monde entier. On ne peut pas les priver de train et on ne peut pas les priver de l'accès à Paris. Et ensuite, dans un monde nouveau où le télétravail devient une norme, l'attractivité du territoire, ce sont des gens qui viennent habiter Laval, mais pour travailler à Paris. Chaque fois que quelqu'un monte dans sa voiture pour aller à Paris parce qu'il n'a pas le train qui correspond à son emploi du temps, tout le collectif et le monde entier en souffrent.
Comprendre en termes d'impact écologique, bien sûr. Les élus de Laval Agglomération veulent aussi que l'État prenne sa part et interpellent le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, sur ce sujet. On va parler d'un tout autre sujet. Là aussi, vraiment au niveau de l'écologie, eux veulent sauver les jardins d'ailleurs de Beauregard à Laval, dans les quartiers Ferrier et tout près du quartier Hilard, là aussi. Mais on en parle juste après avoir écouté Despair Hangover, un ecstasy de The Do.
Oh,
toujours à l'écoute de l'Agité du local sur l'autre radio. Et comme je vous le disais juste avant cette pause musicale, on va parler de cette association de sauvegarde des jardins de Beauregard à Laval. Une association de nouveau active depuis un an et demi. Elle est composée d'habitants et d'habitués aussi de ce jardin, situé près des quartiers Hilard et des quartiers Ferrié. 1,4 hectare de verdure en plein cœur de ville, un temps menacé par des projets de construction de bâtiments, actuellement en projet au point mort mais pas totalement exclu par les élus. Une seule chose est sûre, la mairie justement parle d'une future concertation avec les habitants. En attendant, l'association se mobilise, rencontre sur place avec 3 de ses membres.
Alors moi, je m'appelle Valérie Leroy, j'habite pas très loin d'ici, hein, à quoi 500 mètres. Et donc je viens ici régulièrement pour faire soit des petites réunions ou soit simplement se balader comme ça. Je prends plaisir à pouvoir me mettre dans un petit coin au soleil. Là, c'est sympa, c'est très agréable, comme vous pouvez le constater par cette belle journée ensoleillée aujourd'hui.
Donc moi, c'est Elena, je suis membre de l'association de sauvegarde des jardins de Beauregard. Et j'habite le quartier d'Avenir, donc j'y viens plutôt en balade à l'occasion et puis lorsqu'on met en place des événements. Et puis aussi en veille, quand y a besoin de voir ce qui se passe sur le jardin, s'il y a des travaux, des choses qui risquent de détruire quoi que ce soit. On a eu l'année dernière, par exemple, des besoins de rénover une partie du mur là, qui tombe vers la ville. Et ici, ils ont passé un engin de chantier qui a quand même bien dévasté une partie du terrain. En fait, ils ont été obligés de passer l'engin à travers un mur qui était existant, donc ils ont fait écrouler le mur. Et c'est vrai que ce genre de travaux, on aime bien savoir quand ça se passe et observer, parce que souvent on nous dit « Oh, mais des constructions, ça peut être écologique, ça peut être sympathique, ça peut être pas trop détériorant. » Et ben, quand on voit simplement un engin de chantier qui passe sur un terrain comme ça, naturel, ben, on voit les cratères que ça fait, on voit les dégâts immédiats, et c'est pas possible qu'une construction elle soit aussi naturelle que le terrain tel qu'il est aujourd'hui.
Philippe Fanton, juste vraiment habitant du quartier à 500 mètres d'ici, et depuis déjà un certain temps, et adhérent depuis la création de l'association, je pense que c'était 2009, mais depuis le début du projet, depuis le début du projet, donc avec Pierre au début, dès 2008.
C'est quand même beaucoup de gens qui n'ont pas de jardin, donc ils seraient bien contents d'avoir à la fois le côté festif, animation, et puis le côté jardin où chacun peut soit jardiner ou soit se promener, parce que tout le monde ne fait pas de jardinage, mais il y a aussi des gens qui aiment se promener, et voilà, c'est un lieu de vie, il faut que ce soit un lieu de vie, un lieu de loisir pour les gens du quartier, les gens qui sont en immeuble et qui n'ont pas de petits bouts de jardin. Le jardin, c'est quand même un vaste espace avec des niveaux, on va dire, avec des murets, ce qui est quand même très intéressant et particulièrement bien exposé, ce qui permettrait de faire à la fois quelque chose de convivial où on peut s'attarder, les enfants peuvent y jouer, et puis aussi avoir des fruits et des légumes bien exposés pour la culture, quoi. Des jardins plutôt communautaires, d'après ce qui avait été commencé un petit peu là ici. On voit quelques tuteurs qui ont été mis ici parce qu'il y a eu des plantations de tomates. Donc c'était plutôt dans l'idée d'un jardin communautaire. Mais bon, voilà, après c'est aussi les adhérents qui vont choisir et qui vont construire le projet.
Il faut savoir que sur le jardin de Beauregard, la terre, elle est peu riche apparemment. Bon, moi, j'y connais pas spécialement tout, mais c'est vrai que c'est un terrain qui est plutôt en pente, où l'eau ne s'arrête pas spécialement. Il est très exposé plein sud. Mais après, c'est vrai que des petits fruitiers, des groseilles, des framboises, des vignes, des choses comme ça peuvent s'y plaire. Par le passé, il y avait pas mal de pruniers, de cerisiers qui avaient réussi à s'implanter et qui étaient plutôt assez prolifiques. Malheureusement, il y a eu pas mal de saccages et aussi d'entretien un petit peu drastique de la part de la mairie dans les années précédentes. C'est vrai qu'à cette époque-là, le jardin, il est quand même plutôt sympathique. Bon, là, en plus, il a été tondu par la mairie. Mais en été, on peut y voir pas mal d'herbes folles, observer les insectes, les abeilles, les bourdons, tout ce qui s'ensuit, parce que c'est vrai que c'est un jardin qui reste, on pourrait dire, à l'état naturel. Et c'est vrai que les plantes et les espèces vivantes, animales, prennent leur place. On peut voir des lézards, peut-être des crapauds, des sauterelles. sauterelles, les grillons. Et c'est vrai qu'en plein cœur de ville de Laval, un espace comme celui-ci, on en trouve peu.
Les gens qui sont adhérents, en grande majorité, sont des gens qui habitent aux alentours. Et bon, on parlait d'insectes et de faune et de flore, mais il y a aussi un très bel espace où il y avait autrefois un rucher qui est vraiment clos, donc sécurisé, et qui est aussi, qui pourrait être aussi un lieu d'apprentissage, un lieu de partage.
Une belle vue sur la ville de Laval, parce que de toute façon il est en surplomb, il s'appelle Beauregard, sûrement pas pour rien. Et puis on va descendre effectivement sur le rucher qui lui est clôturé actuellement, bon, pour des raisons de sécurité apparemment, mais c'est un espace dans lequel il y a beaucoup de noisetiers, des cerisiers et puis bah aussi de la vigne. Donc c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas accéder à cette collecte de petits fruits qui sont sympas pour les habitants du quartier. Et c'est un endroit effectivement où par le passé il y avait les ruches des abeilles mayennaises qui s'étaient installées ici. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, le terrain en fait était toujours exploité par des habitants du quartier ou de la ville de Laval qui avaient des jardins ouvriers, enfin des jardins partagés. Et en 2008, sous la mairie de Daubert, le terrain a été mis potentiellement constructible. Et à ce titre-là, la mairie l'a racheté à un particulier donc qui louait ses petites parcelles à des habitants du coin. Et ensuite, sous la mairie de Guillaume Garot, aux alentours de 2010, en fait, le terrain a été vendu à un promoteur immobilier qui voulait faire une construction. Et à ce moment-là, il y a eu effectivement la création de l'association de sauvegarde des jardins de Beauregard, qui a fortement milité avec beaucoup de sympathisants autour d'elle, des rencontres avec le conseil municipal, des choses assez musclées, parce que personne ne voulait que cet espace devienne construit en réalité. Et puis finalement, le promoteur immobilier a abandonné son projet. Et dernièrement, effectivement, ce terrain était resté en friche, à l'état naturel. Et l'année dernière, au moment des élections municipales, effectivement, un collectif s'est créé pour interroger ce qui allait devenir de cet espace, parce que certains bruits de couloir disaient que certains candidats aimeraient faire construire à nouveau sur ce terrain. Et donc le collectif a interrogé une partie des candidats qui ont tous dit ben non, on va garder cet espace comme un poumon vert de la ville de Laval. Sauf que ça ne nous dit pas vraiment précisément ce que ça signifie. Et là, la mairie actuelle de Florian Bercot souhaiterait construire sur une partie du terrain. Et donc ben, nous, on a réalimenté effectivement l'association de sauvegarde des jardins de Beauregard qui était en sommeil. Et là, avec une trentaine d'adhérents, on est partant pour qu'il n'y ait toujours pas de construction, parce que c'est un espace qui est vert nécessaire pour le quartier de Beauregard, d'Hilard, de Sainte-Catherine. On ne le verrait pas sans cet espace. C'est le seul espace vert en réalité du coin. Il n'y a pas que la Périne, la plaine d'aventure sur la ville de Laval. Il faut vraiment que chaque quartier puisse avoir un minimum d'espace vert. Ici, ce n'est que 1,4 hectare d'espace vert. Quand on pense aussi au quartier Ferrié, qui est quand même très bitumé, tout ce quartier autrement n'est que bitumé, bétonné. On n'a pas du tout d'espace où respirer, où observer la nature, et il est nécessaire qu'on puisse le conserver, quoi. Donc là, on est devant la porte du rucher qui est fermée. Ce qui est écrit, c'est « Pour la sécurité de tous, ce lieu est fermé momentanément ». On est quand même en échange assez fréquent avec la mairie de Laval. Comme le disait Valérie tout à l'heure, on a pour projet, notamment en avril 2022, de participer aux 48 heures de l'agriculture urbaine, par exemple. Donc c'est des projets qu'on aimerait bien mener avec la ville de Laval. On a demandé à ce qu'il y ait une installation d'eau aussi sur le terrain pour que, si certaines personnes veulent faire pousser des choses, des légumes notamment, ben, il leur faut quand même cette alimentation pour que ça puisse être un petit peu exploité. Et c'est quelque chose qui a été mis en place par la mairie, donc ils ont répondu à notre demande.
Là, c'est plutôt un lieu de rencontre où on a débattu un petit peu de ce qu'on voulait faire. Et puis, il y a eu aussi des petites manifestations qui ont eu lieu, notamment de la musique, des pique-niques, beaucoup de choses comme ça qui ont eu lieu cet été et puis l'été précédent aussi. Donc voilà, c'est beaucoup à ces occasions-là. Et puis voilà, il y a aussi des gens qui sont... Il y a beaucoup de logements sociaux sur le pourtour. Tout autour du terrain, il y a beaucoup de logements sociaux. Bah, c'est vrai que par la suite, il y a quand même une grille qui permettrait de sécuriser le lieu aussi. Donc à voir comment on peut organiser ça. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles en tout cas.
Justement, il y a beaucoup de promeneurs qui viennent ici. Et là, c'est intéressant, parce que moi, je suis le premier à venir me balader. On est en plein soleil, il y a une charge assez forte de ce lieu. Et il faut l'expérimenter, vous allez voir. J'habite à 500 mètres, mais je viens assez souvent. C'est un lieu de balade. J'ai rencontré des gens que je revois qui sont venus au jardin de Bourgard. C'est la charge du lieu qui a été la plus forte. Je pense que c'est important pour la rencontre aussi. Voilà. Ça fait 10 ans déjà, depuis 2008, même plus que ça, que je suis dans l'association. Et là, il n'était pas question de bâtiment, non. Jamais question de bâtiment. C'est un lieu vraiment important pour le quartier.
Si on y vient un petit peu de temps en temps, il y a effectivement beaucoup de personnes qui viennent se promener et on a pas mal de personnes aussi qui ne connaissent pas encore le lieu parce qu'il n'est pas identifié, d'où l'intérêt de mettre une signalétique. Et c'est vrai qu'à travers le budget participatif cette année, on a réussi à obtenir cette opportunité. Ça va être plutôt bien pour que tous les habitants sachent qu'il existe cet espace vert. Mais beaucoup de personnes viennent avec leurs animaux aussi de compagnie, avec les chiens pour qu'ils puissent se défouler. Voilà, puis ça se mêle bien, la population se mêle bien dans cet espace où on a de quoi s'exprimer, quoi. On nous avait dit à partir de l'automne ou de l'été, là on est déjà en novembre, il ne se passe rien pour le moment, on observe, on écoute, on questionne aussi, pour le moment pas de concertation. Voilà, il y a sûrement un projet dans les couloirs, dans les petits papiers de la mairie de construire. Mais quoi, comment, à quel endroit, plus précisément, des élus nous ont dit qu'ils allaient conserver quand même un espace parce qu'il y a quelque chose d'important à préserver, mais ce serait minime par rapport à la surface verte ici existante. Donc pas de construction, ce serait quand même le mieux. En attendant, on avance nos jalons et puis jusqu'ici, les réponses, elles sont plutôt positives. Donc on fait comme si il n'y avait pas de projet de construction. Effectivement, on sait que des plantations, ça prend du temps, c'est sur du long terme, mais advienne que pourra. Pour le moment, si on peut proposer des petites actions, continuer de faire des temps collectifs, des temps conviviaux sur cet espace, des temps de musique, des décorations ou des expositions, pourquoi pas, des temps de débat. C'est un lieu, comme dit Philippe, assez chargé, d'échange aussi. Et y a eu souvent des débats ici, des personnes qui viennent pour discuter, échanger, proposer des solutions autour de l'environnement, mais pas que, autour des discussions sociales. Donc c'est un espace qui s'y prête bien. Avec le réchauffement climatique, il fait chaud même à Noël, donc il se peut qu'on fasse des choses même en hiver. Mais là pour le moment, c'est vrai que nous, l'association de sauvegarde des jardins de Beauregard, on se met quand même à l'abri et on se réunit tous les premiers samedis du mois de 10h à 11h. Donc c'est un temps court d'échange, mais plutôt efficace, un temps convivial aussi. Et pour le moment, on le fait en partenariat avec la maison de quartier d'Hilard, parce que c'est vrai qu'on sait qu'en hiver, ça peut être un peu délicat de se trouver sur le jardin, surtout le matin. Et du coup, on invite toutes les personnes qui souhaiteraient venir découvrir l'association, apporter simplement des idées à un moment T, juste boire un café, parler du jardin ou se le faire découvrir parce qu'ils ne savent pas où c'est. Voilà, rendez-vous le premier samedi du mois, donc le prochain c'est le 4 décembre, à 10h à la maison de quartier d'Hilard. Et on accueille les gens avec sympathie pour qu'ils puissent nous rencontrer et puis qu'on puisse exposer aussi plus en détail ce qu'on connaît de l'avenir des jardins de Beauregard.
Il y a par exemple le théâtre Jean Massé qui n'est pas très loin. Bon, on pourrait très bien convenir avec eux de faire un petit peu de théâtre en plein air. Il y a aussi un club d'astronomie qui n'est pas très loin. Donc les observations, on peut les faire même en hiver. Hein. Donc voilà, c'est un lieu qui peut vivre toute l'année.
Et oui, vous l'avez compris, hein, plusieurs projets sont envisagés. L'association attend désormais une réponse des élus de la ville de Laval concernant cette concertation dont le calendrier a déjà été repoussé à plusieurs reprises. On va parler, enfin vous allez entendre et retrouver la chronique Un autre écho de l'écho juste après Wind Song de Revolver.
Same way out. It's been too long, now I don't know what's right. It's so hard to remember. By the morning she was gone without a sound. The sunshine
Avec Wine Song dans l'agité du local sur l'autre radio. Et ça y est, Soizic est avec nous en studio. Bonjour Soizic.
Bonjour Marie.
Et Soizic, aujourd'hui, vous voulez donner un conseil à Greta Thunberg. Et oui, vous nous dites que
Excusez-moi
Greta Thunberg devrait faire de la sociologie.
Et oui, voilà, je ne me gêne pas, je donne un conseil à Greta Thunberg. Parce qu'en effet, en ces temps de COP26, mais au fait, tiens, c'était quoi la COP 1, 2, 3 Bon, je m'égare.
Alors là.
Donc, je reprends. En ces temps de COP26, donc, Greta Thunberg revient donc sur le devant de la scène après 2 ans de silence, COVID-19 oblige. Alors à ce titre, l'excellente revue Oblique titre son dernier numéro, Make the Planet Greta Again, l'écologie pour les boomers et les autres. Alors la revue entonne évidemment un refrain facilement chanté par la jeune Suédoise selon lequel il y aurait d'un côté les jeunes, vertueux de l'écologie, et d'un autre les vieux, destructeurs de la planète sans vergogne qu'il conviendrait d'éduquer.
Alors Soizic, vous arrivez très mal à le cacher, hein. Je sens que vous pensez que Greta Thunberg se trompe.
Et oui, tout à fait. Parce que si Greta Thunberg est en effet quasiment irréprochable sur le plan scientifique, avec une culture parfaite des éléments du GIEC, alors le GIEC c'est le groupe international de spécialistes qui étudie le réchauffement climatique, eh bien à mon sens, elle commet en revanche 2 erreurs en opposant les générations. Une erreur sur le plan politique, au sens noble du terme, et une autre sur le plan sociologique. Alors tout d'abord, l'erreur politique. Greta tient en effet pour responsable du réchauffement climatique toute la génération de ceux qu'elle appelle les boomers, c'est-à-dire les personnes nées pendant le baby boom, aujourd'hui âgées de plus de 50 ans. D'après elle, ces personnes addictes au confort permis par la croissance économique des Trente Glorieuses seraient responsables de la catastrophe climatique en cours et en plus partisanes d'un je m'en foutisme total. Or, accuser toute une génération sans différenciation de responsabilité économique ou politique me semble bien caricatural. Qu'elle accuse des dirigeants d'entreprises comme Total ou Elf, dont on sait maintenant qu'ils connaissaient dès les années 70 les ravages de leur activité économique sur la planète, est une chose. Qu'elle cloue au pilori les politiques pour leur aveuglement et leur manque de courage, très bien. Mais qu'elle accuse l'ensemble des citoyens qui finalement n'ont fait que s'intégrer dans le système qu'on leur proposait, voire qu'on leur imposait, est une autre question. Dit autrement, Marie, nos enfants, qui aujourd'hui sont végétariens et plantent des arbres quand ils prennent l'avion, auraient-ils eu ce même comportement s'ils étaient nés durant les Trente Glorieuses? La réponse tient bien sûr dans la question. Parce qu'en vrai, il est très peu pertinent de comparer 2 époques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et de faire comme si, dans les années 70, 80 ou 90, la problématique environnementale était appréhendée de la même façon qu'aujourd'hui. Le conseil que je donne à Greta, elle ferait mieux de rassembler au lieu de diviser, la cause serait politiquement bien mieux servie.
Très bien, Soazic. Donc ça, c'est vraiment pour l'erreur politique. Et pour le second point ?
Eh bien, il tient dans l'idée, souvent défendue par la jeune Suédoise, que les jeunes seraient écologiquement plus vertueux que les, quoi d'ailleurs, trentenaires, quadra, quinca, sexa. Bah, finalement, on ne sait pas très bien à partir de quel âge on devient coupable de crimes contre le climat. Alors c'est normal parce qu'en fin de compte, l'âge n'est pas du tout la principale variable explicative des comportements écologiques. En effet, sur les 50 000 participants au défi Rien de neuf organisé par Zéro Déchet France, il ressort que 90% étaient des femmes. Elles avaient entre 25 et 50 ans, étaient fortement diplômées et gagnaient plus de 2 500 € par mois. L'écologie est donc davantage une affaire de genre et de diplôme plutôt que d'âge. J'en veux pour preuve l'enquête de l'ADEME qui indique que les jeunes de moins de 26 ans ont des habitudes plus écologiques que leurs aînés dans deux domaines seulement. La mobilité au quotidien, alors ils privilégient la marche, la bicyclette, les transports en commun et le covoiturage, et les alternatives à l'achat du neuf, que ce soit l'occasion, la location, le troc, etc. Alors d'accord, 12% d'entre eux font partie d'une association de défense de l'environnement, contre moitié moins pour les plus de 25 ans. Mais quand il s'agit de traduire ses convictions en actes, le tableau change de couleur. Comparativement à l'ensemble de la population, ils sont en effet bien moins nombreux à trier leurs déchets, bien plus nombreux à voyager en avion et bien moins nombreux à nouveau à limiter leur consommation numérique. Pour rappel, le réchauffement dû à l'utilisation du numérique équivaut aujourd'hui au réchauffement issu du trafic aérien. Et ça, ce sont les mesures de Greenpeace ou du Shift Project, donc on est certain des données. Un exemple emblématique, les 18-29 ans ont déjà possédé près de 5 téléphones mobiles dans leur vie, contre 2 pour les plus de 60 ans. Alors vous voyez Marie, le monde n'est pas divisé entre des vieux méchants et des jeunes gentils. Alors, je pose la question, se trouverait-il un sociologue dans l'entourage de Greta pour lui donner quelques clés de sociologie ? C'est à espérer. Parce que ce serait en effet bien dommage qu'elle finisse par agacer en se trompant de cible pour mener son combat. Combat qui nous concerne bien évidemment tous, les jeunes tout autant que les vieux.
Eh bien, merci beaucoup, Soazic, en tout cas pour cette leçon donnée à Greta Thunberg ou peut-être à son entourage,
si jamais ils nous entendent. En toute sympathie avec la jeune Suédoise, bien évidemment.
Bon, en tout cas, cette chronique, si vous avez peut-être manqué certains bouts ou vous avez envie de renoter certaines choses, vous pouvez la réécouter sur notre site l'autreradio.fr, comme toutes les autres d'ailleurs. Et puis, on vous retrouve dans 2 semaines, mercredi.
Absolument. Bon week-end de tout ça. N'importe quoi. Le 11 novembre à tous.
Merci, bon week-end à vous aussi. Et on vous retrouve donc dans 2 semaines. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce mercredi. À suivre à l'antenne ce soir à 19h, il y aura Novorama. Ce sera suivi à 21h de Déclectic Jazz. De mon côté, je vous souhaite une très bonne journée. Un bon week-end si vous en avez un. Pas d'émission demain, attention. Par contre, on se retrouve vendredi. Allez, à vendredi.